Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Florian Gazan.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans On refait le match sur RTL. 90 minutes pour faire le tour de l'actualité foot. Et ce soir, ce sera un Tour de France, puisqu'on parlera des Bleus en finale demain de la Ligue des Nations, après une demi-finale compliquée face à la Belgique. On évoquera la sortie Dubois, pas Léo Dubois, non, Kylian Mbappé dans l'équipe et de sa maman dans le Parisien. Des interviews qui nous apprennent beaucoup sur l'été agité en club, comme en équipe nationale de Kiki, mais aussi un peu sur son avenir, bien plus incertain que la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle, et si le Real Madrid c'était plus si sûr que ça. Et puis évidemment on reviendra sur la disparition de Bernard Tapie, dont les funérailles ont eu lieu hier à Marseille, sans oublier nos fameux tirs au but en fin d'émission. Pour m'accompagner ce soir, quatre fantastiques, un homme qui n'est pas un bleu en matière de presse, vu qu'il a été chef de presse des Bleus, François Manardeau, bonsoir.
Bonsoir, ça bonsoir va, à tous.
Ça vous nous très serez bien. Fort utile pour décoder la com' de Kylian Mbappé.
Hein. Heureux d'être avec vous, on va voir ça, ouais.
Bah nous aussi. Il a écrit le guide de l'Euro 2021, avec le Covid du coup, il a un an de moins pour écrire celui de la Coupe 2022. Et si justement la Coupe du Monde se joue désormais tous les deux ans, il va devenir guide à plein temps. Xavier Barret, bonsoir.
Salut Florian, bonsoir à tous.
Ils ont étudié ce guide là.
Pas mal, ah, bah, ça y est, on planche sur celui de la Coupe du Monde, oui, absolument.
Très bien. La Coupe du Monde des clubs à 32, tu peux en faire.
Ah, j'ai pas fait le guide de la Ligue des Nations, par contre.
Non, pas c'est moins bizarre. J'ai proposé à l'époque la Coupe des Confédérations, mais elle n'existe plus.
Ah, bon, écoute. Il est italien quand l'Italie gagne, donc il est français ce soir, vu que la Squadra Azzurra s'est fait sortir de la Ligue des Nations par l'Espagne en demi-mercredi. David Aiello de la chaîne L'Équipe et d'Amazon. Bonsoir David.
Bonsoir mon cher Florian.
Mais bonsoir. Et enfin, un homme qui est là ce soir, malgré tout, malgré l'humiliation, la honte, le seum, car oui, il est né du mauvais côté de la frontière. Et ce soir, nous lui accordons l'asile footballistique. Stéphane Powell, bonsoir.
Je ne réponds même pas.
Bonsoir
ça,
tout le monde.
Ça va Stéphane?
Oui, mieux serait insupportable. Pour être très clair, je déteste ce mot seum. C'est quelque chose qui va à l'encontre de mon vocabulaire. Il y a une rivalité, elle doit rester saine. Oui. Et les Français méritent la victoire. On avait qu'à être bon et avoir un meilleur entraîneur. Mais j'aime pas... j'ai pas aimé dans l'équipe de remettre une couche. Les Belges ont montré déjà beaucoup d'une mauvaise attitude en brûlant des drapeaux français en étant un peu con. Et voilà, donc je pense que c'est pas nécessaire et je pense qu'il faut rester sur le football, quoi.
Très bien. Bon,
voilà. J'aime pas ce mot, il veut rien dire. Non. Dans le dictionnaire, est-ce qu'il est écrit
avec son temps.
Rester sur le football.
Voilà.
Dans le dictionnaire que tu disais toi, non, je pense qu'il n'était pas écrit. Bon.
En tout cas, donc vous n'avez pas digéré, Stéphane. C'est la conclusion.
Si, tout à fait.
Sans oublier pour vos messages, vos questions, vos réactions sur le compte Twitter et la page Facebook de On fait le match, avec pour nous les transmettre le meilleur relayeur de la station, Baptiste Durieux. Bonsoir.
Bonsoir Florian, bonsoir à tous.
Ça va Baptiste? On aura peut-être des messages d'ailleurs sur ce match contre la Belgique.
Absolument.
Allez-y mollo, comme il a un petit cœur fragile le Stéphane. On est ensemble jusqu'à 20h, vous êtes bien sur RTL et nous aussi.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
Et on va commencer l'émission en revenant bien sûr sur la disparition de Bernard Tapie. Celui qui a offert l'étoile sur le maillot de l'OM est parti les rejoindre. Cette semaine, les supporters ont pu aller lui rendre un dernier hommage au Vélodrome avant hier son enterrement au cimetière de Mazargues. On ne pouvait pas ne pas parler du Parisien préféré des Marseillais ce soir dans On refait le match. Alors dans un instant messieurs, je vous poserai cette question. Bernard Tapie est-il le plus grand président de club de toute l'histoire du foot français ?
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h avec David Aiello, Xavier Barret, François Manardeau et Stéphane Powells. On va donc maintenant évoquer évidemment Bernard Tapie, à jamais le premier à offrir la Ligue des Champions en 1993 à un club français. Cet Olympique de Marseille qu'il avait repris en 86 pour un franc symbolique alors que le club était 15e du championnat et n'avait plus rien gagné depuis 1976. 7 ans plus tard, Marseille était sur le toit de l'Europe avec au passage 4 titres de champion de France et une Coupe de France. Alors messieurs, Bernard Tapie est-il le plus grand président de club de l'histoire du foot français?
Jamais de la vie. Non mais jamais de la vie, attendez.
Question compliquée.
Non mais il peut être le plus grand battleur, il peut être le plus grand vendeur de soupe, le plus grand vendeur de rêves, mais jamais le plus grand président. Qu'est-ce qu'il a laissé à l'OM? Alors vous allez dire, ouais,
il a laissé une
Ligue des Champions, oui, mais à part ça... À l'époque, l'OM, il n'y avait même pas de centre d'entraînement, il n'y avait rien. Alors que d'autres clubs français, notamment les Girondins de Claude Bèze, le Bordeaux de Claude Bèze, il était déjà construit dans le dur, énorme centre d'entraînement de référence. Le centre du Haillan qui existe toujours, qui sert toujours. Tapie, il est venu faire un coup à l'OM. comme il a fait d'ailleurs avec les entreprises qui rachetaient, il les revendait. Et derrière, eh ben, coup de bol, ça a marché. Mais vous rendez compte, il a fini en prison quand même. Vous parlez du plus grand président. Le gars, il a fini en prison. Mais attendez,
il n'a pas vocation à être architecte.
Mais non, mais attendez, à côté de ça, vous avez des présidents comme Louis Fontenot qui est resté pendant 13 ans à Nantes.
Sacré Louis.
Loulou Nicolin, même, Montpellier. Il a bâti un club sur la durée. Le président Henri Germain à Reims à l'époque, il a amené deux fois en finale de la Coupe des clubs champions. Et ce sont des gens qui ont eu des comportements exemplaires. Même Jean-Michel Aulas, quand vous voyez ce qu'il a construit à Lyon. Alors, et il est toujours en poste, ça fait 30 ans. Et là, vous allez comparer qu'un type qui a fait un coup pendant 5 ans.
D'abord, c'est réducteur complètement. Là, on parle bien de football, on parle pas d'affaires. C'est l'un des plus grands
présidents de club.
On t'a laissé faire ton monologue. On t'a fait ton monologue. On a entendu que tu l'as découpé. Moi, je vais juste te dire, il y a une étoile qui s'appelle la Champions League, il l'a eu. Nonobstant la manière que ça ne te plaît pas. Mais par contre, à part ça, deux choses. Le mec, il prenait des décisions. La décision, quand il prend Franz Beckenbauer et qu'il se rend compte après 3 mois que ça va pas, il va chercher qui, Raymond Goutals, et il la gagne, sa Champions League. Donc ça, c'est quand même des mecs qui prenaient des décisions pour un club.
Tout président,
un jour, Eric Cantona, il jette son maillot à un match de préparation, il prend et il dit, moi, les mecs, c'est l'institution, c'est le maillot. Donc le type, tu peux pas enlever que ce type a été un bon président. C'est réducteur de venir dire quand tu parles de ses affaires. Moi, je dis pas que c'est le plus grand, parce qu'il y a eu on se rejoint sur un point où tu es en train de me le détruire et de dire moi je pense que Bernard Tapie est à mes yeux, je regarde le palmarès et le palmarès, ce que Paris attend depuis des années d'essayer de gagner le Champions League, et je leur souhaite, Marseille l'a fait avec Bernard Tapie, voilà, point barre. Moi, oui, c'est un des plus grands.
Ça compte un peu quand même, le palmarès.
Ça compte quand même, non?
Tout dépend des moyens que vous mettez au départ.
Non, mais Xavier, dans le football français, on en compte tellement des Ligues des Champions que tu dis, à part ça, il y en a qu'une seule.
Oui, on croit entendre les Marseillais jamais les premiers.
C'est pas la question d'être jamais les premiers.
Ça reste le cas quand même.
C'est factuel. Les questions de grand président à ce moment-là, tu excuses Roger Rocher de Saint-Étienne, puisque lui, il a eu l'affaire de la caisse noire.
Oui, Roger Rocher, il y a eu la caisse noire, effectivement.
Claude Bez n'a pas été non plus. Sur la question, Florian, est-ce que c'est le plus grand président? Moi, j'irais plutôt, est-ce que c'est un des plus grands patrons? Sinon, le plus grand patron du football français? Là, je dirais oui. Président avec le côté architecte que toi tu as décrit, on peut évidemment faire là-dessus jusqu'à demain matin si tu veux, mais un patron, un vrai grand patron comme Aulas aujourd'hui, on trouve à l'OL, oui, certainement Bernard Tapie a été un grand patron de l'Olympique de Marseille, même s'il y a des zones d'ombre, évidemment.
C'est parce qu'il a travaillé chez Manu France, hein, Xavier, c'est pour ça qu'il a dit.
Après, si on reprend la question de manière factuelle, le plus grand dirigeant, je crois que c'est ça la question, président, dirigeant.
Si
il faut comparer aussi ce qui est comparable. C'est toujours difficile de comparer les époques. Moi, je trouve que ce qu'a réalisé Jean-Michel Aulas sur la durée, à une époque où le football est beaucoup, beaucoup plus compétitif que dans les années 80 ou 90, moi, ça m'impressionne plus. D'autre part, il va laisser, quand il partira, le club avec un outil formidable qui est le stade, donc un outil commercial, un outil de développement du club. Il a été champion cette année de suite. Il n'a pas remporté la Ligue des Champions, mais encore une fois, remporter la Ligue des Champions en 93, en sortant d'une poule et jouer la finale, bon, il faut le faire, mais c'est quand même beaucoup plus simple qu'aujourd'hui d'en remporter la Ligue des Champions.
C'est réducteur.
Mais c'est pas réducteur.
Tu peux pas dire ça, David.
Pas tous en même temps, pas tous en même temps.
Pour remporter la Ligue des Champions en 93, il fallait le faire, mais il fallait battre Bruges,
c'est le CSKA Moscou. Bravo,
et ensuite, tu te retrouves en finale. Bon, excuse-moi, aujourd'hui, pour remporter la Ligue des Champions, c'est quand même un autre parcours. C'est quand même beaucoup plus difficile, je veux dire, c'est factuel.
Mais c'est pas la même époque, c'était aussi compliqué.
C'est pas de sa faute à Bernard Tapie s'il a formulé ça comme ça.
C'est pas une question de faute, je vais juste au bout du raisonnement. Je vous dis juste que pour moi, ce qui a réalisé dans la durée Jean-Michel Aulas, factuellement, c'est plus complet. Parce que, effectivement, le football aujourd'hui est plus difficile et parce qu'il laisse le club. Il laissera le club avec davantage d'outils et de pérennité, là où l'OM, quand Bernard Tapie est parti, il faut le rappeler, s'est retrouvé en deuxième division.
Est-ce qu'on doit faire un classement?
Non, c'est la question.
Est-ce qu'on doit faire un classement? Est-ce que dans le top 5 des grands présidents français de l'histoire du foot, est-ce qu'on ne met pas ou est-ce qu'on met Bernard Tapie? Moi, je réponds oui.
Bah bien sûr. Et regarde, c'est parce que la liste, elle peut être aussi complétée. Gervais Martel, c'était un bon président ou un mauvais président? Le mec, il est quand même une fois, il a un titre avec son club de Lens. Où il, tu vois, moi, je pense que c'est le palmarès, Xavi. Ne t'en déplaise, mais vous courez bah, Paris.
Si vous mettez que...
Paris. Paris court depuis des années pour gagner la Champions League. Lui, il en perd une demi-finale. Derrière, il la gagne. Excuse-moi, si ça, c'est pas un grand président. C'est quoi, quoi? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il te faut, quoi?
Deux finales de Ligue des Champions en trois ans.
À trois ans. Qu'est-ce non, mais qu'est-ce qu'il te faut?
Mais, okay, mais c'est pas. Ce qu'il me faut, c'est un gars qui construise quelque chose qui dure sur le, dans le temps.
Ce que dit David s'intègre. Avec Ola.
Ce que fait Ola, c'est très bien ce qu'a fait.
Enfin, les Lyonnais, ils vont jamais gagner la Champions League avant bien longtemps.
Je citais l'exemple de président que beaucoup de nos auditeurs n'ont jamais connu. Henri Germain à Reims, à l'époque, Reims, c'est vraiment le concurrent du Real Madrid. C'est extraordinaire.
On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Non, Louis Fontenot à Nantes, d'ailleurs, le centre d'entraînement. L'entraînement de la Jaunelière porte aussi son nom. Il est resté 13 ans. Ils ont été 5 fois champions.
Michel Seydoux, au LOSC, a construit un grand club.
Mais Michel Seydoux, pourquoi
peut faire la liste.
Mais ce sont des gens qui ont,
mais tu vas pas comparer avec un énorme respect.
Qui ont construit un club dans le dur.
Mais tu ne vas
voilà,
pas.
Qui ont construit un club qui reste,
Xavier,
qui s'installe
Xavier,
dans la
excuse-moi,
durée.
Xavier, tu ne vas pas comparer. Xavier, tu ne vas
pas. Non, mais pas tous en même temps.
Tu ne vas pas comparer. Et après, j'arrête. Tu ne vas pas comparer Martel, Michel Seydoux, que j'adore, que j'ai travaillé pour ce mec-là. Tu ne vas pas comparer tous ces présidents-là qui sont des fondateurs et des bons travailleurs avec un mec qui a fait rêver la France en gagnant la Champions League.
Mais là où attends, tu vas pas comparer
une Porsche faute une Porsche Cayenne.
Donc on peut pas mettre les émotions de côté quand on fait le bilan de Bernard Tapie.
La preuve, on a vu ce qui s'est passé cette semaine à Marseille, parce que 93 c'était quand même pas avant-hier. Il a quand même laissé cette trace là. Ça ne peut pas l'enlever.
Désolé, les pauvres Marseillais qui sont coincés entre les règlements de compte dans les cités nord et les plages qui sont souillées par les poubelles. Effectivement, ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Donc attendez, moi j'étais à France Football à l'époque.
T'as mal mangé.
Ah oui, j'étais à France Football à l'époque.
C'était pas l'ami de Bernard Tapie.
Je peux vous dire, on a eu jusqu'à 6 procès contre lui. 6 procès contre lui. Et je peux vous dire que tous les week-ends, il y avait un envoyé spécial différent parce qu'on était menacés. Moi j'étais encore jeune journaliste, c'était pas moi qui allais au feu. Mais il y avait les collègues qui rentraient tous les week-ends, des déplacements à Marseille, qui s'étaient fait menacer, qui s'étaient fait embarquer bizarrement la voiture de Locke, qui la retrouvait pas, qui se retrouvait. Il y en a un qui a été agressé dans sa chambre d'hôtel. Tout ça parce qu'on avait le courage de raconter, de dénoncer les méthodes de Tapie à l'époque. Et vous voulez qu'on admire ce type-là?
Xavier, pardon, mais je vais le faire pour toi, parce qu'effectivement, France Football a été un des médias, des rares médias, sinon le principal média, tout support confondu en France, qui est allé l'affronter sur son terrain. Et il faut dire que France Football a été, là aussi, un des rares, sinon le seul média à avoir traité l'affaire VAOM et la prendre au sérieux dès le départ, et qui est évidemment, comme on le connaissait, il n'allait pas se laisser marcher sur les pieds, voire même il allait être extrêmement offensif, et il vous a pas ménagé là-dessus, t'aurais pu aussi le rappeler là-dessus.
Ah bah oui, mais je te dis, on a eu 6 procès.
Non, mais c'était pas avant forcément que l'affaire VAOM.
Xavier,
vous l'avez pas à la
Parce qu'on dénonçait
certain.
Ces méthodes. Parce que tous les week-ends, les copains revenaient de Marseille où ils étaient allés, enfin une semaine sur deux pour les matchs, et ils disaient, bah il y a tel entraîneur qui nous a dit ça, tel joueur qui nous a dit ça. Et on pouvait pas
Xavier, on parle de foot. Florent Gazan a posé la question au grand président.
Non, mais c'est pour ça que non, jamais de la vie. Moi, je veux un président honnête, un président qui soit un exemple, pas un type comme ça.
Est-ce que ça peut exister, ça, ceci dit?
Bah, je sais pas, mais bon, Ola, on peut projeter des choses, effectivement. Parfois, il va un peu à l'intox sur les arbitres, mais j'ai
mais
pas
le sentiment. Mais est-ce que tu peux accepter que quand même ce mec, sportivement parlant, il a quand même fait des choix avec des joueurs, il a fait venir des mecs. On va pas tout mélanger.
Ouais, moi, les histoires, si, ça fait partie du
mais on est en train de tout mélanger.
Vous voulez perdre la morale, là, Xavier.
Mais non,
c'est pas nous notre but.
Est-ce que c'est le plus grand président?
C'est quand même difficile de se dire, on va s'intéresser qu'au football sans s'intéresser à tout ce qui a été Bernard Tapie dans le football.
Je veux dire, il y a eu. Tu veux que ce soit le nombre de présidents qui, pour gagner des compétitions, ont fait du grand n'importe quoi? La liste, elle est longue. Tout d'un coup, on va tomber sur la gueule de Bernard Tapie. Il faut arrêter des conneries quand même.
On parle de gens qui ont gaspillé
parce que vous pensez qu'à Paris, il n'y a pas eu des présidents qui ont fait n'importe quoi. Mais de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Qui allait acheter l'adversaire?
Moi, allez,
non, c'est quand même ça.
Alors
le scandale.
Ça, c'est d'arrêt du.
Mais non, c'est quand même. Il a été condamné pour ça.
Tu en fais une affaire personnelle, Xavier.
Mais non,
tu en fais une affaire personnelle.
Il a été condamné pour ça.
Il a été condamné sur un match.
Oui, sur un match.
La partie découverte de l'iceberg, si tu veux le dire. Mais il a été condamné sur un match. On ne peut pas ici faire le procès
du système
post-mortem Tapie. De Bernard Tapie sur d'autres matchs qui auraient été achetés parce que les rumeurs couraient dans les rédactions, principalement dans celle de France Football à cette époque-là.
Entre autres.
C'est un peu plus compliqué
que
ça.
Et s'il y a des preuves,
que...
il faut les amener. S'il n'y a pas ces preuves aujourd'hui, il faut passer un peu ça sous silence ou être très prudent sur ce qu'on peut dire.
On va reprendre un petit peu de hauteur.
Mais c'est pas méprisable, les larmes des Marseillais, l'émotion que ça a vécu.
Encore maintenant, regarde, tu dis les gens des cités. Quel bonheur a donné ce type à toute une génération.
On donne un bonheur factice et on s'y raccroche pendant 30 ans.
Messieurs, on va continuer de parler de Bernard Tapie. On va se calmer un tout petit peu. On va faire une petite pause parce que j'ai l'impression qu'il faut reprendre un peu nos esprits. Et on va reparler dans un instant. Donc, on refait le match sur RTL.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h, toujours avec David Aiello, Xavier Barré, François Manarneau et Stéphane Poels. On va continuer à parler un petit peu quand même de Bernard Tapie. On va essayer de prendre un petit peu de la hauteur. Est-ce que quand même, quelque part, on ne peut pas dire que Bernard Tapie, il a son plus grand mérite, c'est qu'il a un petit peu quand même décomplexé le football français. Il y a quand même avant et après, notamment sur la scène européenne.
Non, mais c'est pour ça que tu as raison, Xavier, il y a plein de choses à dire et qu'on ne peut pas, à l'heure de... avec tout le respect qu'on doit avoir, parce qu'on on est encore aussi dans l'émotion, donc il faut en tenir compte aussi. On rappelle quand même que ces obsèques, c'était seulement hier. Donc il y a aussi ce respect qu'on doit avoir. Tu as raison aussi, il y a un devoir si on dresse un bilan, on doit le faire de manière honnête. À côté de ça, je pense que c'est important, quand on dresse ce bilan, de parler de toute tout ce qui dépassait en fait Bernard Tapie. Effectivement, tu l'as dit, le fait d'avoir amené le sport français dans une autre dimension. Il faut rappeler aussi, parce que c'est une autre époque, encore une fois, ça revient beaucoup, c'était pas le seul, alors c'est peut-être pas une raison, mais effectivement, c'est pas la même époque. On est obligé de tenir compte du contexte. C'est l'époque de Berlusconi, c'est une époque.
Le sport français.
C'est une époque Tapie, qui est très très différente.
Tapie qui ramène le football français sur le devant de la scène, désolé, mais c'est déjà fin des années 70, début des années 80, les succès de l'équipe de France. Quand le football français revient en premier plan, c'est Michel Hidalgo, c'est Platini, aussi, ouais. C'est Marius Trésor,
mais tu peux
Michel,
pas le
c'est cette génération-là.
C'est
cette génération-là.
C'est
déjà là qui revient.
Mais tu peux pas l'exclure.
Alors après, le football de club, effectivement, était moins performant, mais les Girondins de Claude Béze, ils vont deux fois en demi-finale de Coupe d'Europe, en Ligue des Champions.
Ouais, mais demi-finale,
ils sont pas loin.
Xavier Claude Béze, c'était pas non plus un modèle de.
Donc, Claude Béze, c'est pas un modèle d'un point de vue fiscal, si vous voulez.
Mais
moi, j'ai entendu que Claude Béze est allé acheter l'adversaire. C'est ça qui me gêne, moi. Que cette présidente de club, vous dites Roger Rocher, effectivement, avec la caisse noire à Saint-Etienne, Claude Béze, avec ses magouilles fiscales à Bordeaux, était pas très clean. Je suis d'accord, c'était pas les seuls, mais eux ils allaient pas acheter l'adversaire.
Non, c'est
pas
ça. Non mais On demande à un président aussi d'être un leader et de pouvoir prendre des décisions. Moi, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, ici, on a dû parler des incidents qu'il y a eu un certain Nice-Marseille, où le président de Nice nous a tous donné une mauvaise image de ce que pouvait être un président, alors qu'on était convaincus que le type avait de la hauteur, hein, parce qu'il fait n'importe quoi, il vient parler avec son noyau dur.
Jean-Pierre au-dessus. River.
Il fait n'importe quoi, excuse-moi. Moi, j'attends d'un président.
Oui,
je n'ai pas fini, je t'ai laissé parler. Quand Jean-Michel Aulas, ça c'est un grand président, il va dans la tribune, le match contre les Turcs, et que ça pète dans la tribune et qu'il lui calme tout le monde, Bernard Tapie, c'était un comme ça. Bernard Tapie, il gérait son club, peut-être parfois dans une manne fer, peut-être un peu très dur dans un grand velours, mais quand même, le mec, ça bougeait pas. Et le mec, il prenait des décisions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un président qui est charismatique et qui peut tirer un club vers le haut. Il a gagné la Champions League. Ne t'en déplaise en pensant qu'il a acheté des matchs. Moi, ce que je vois, c'est ce que je dis, François, c'est qu'il a fait une erreur condamnée, c'était contre Valenciennes, mais en Champions League, il a été cherché. Putain, il ramène Papin, Waddle, il ramène des mecs, et tous sont unanimes en disant que c'était un grand président. Même Franz Beckenbauer, dans le journal L'Équipe la semaine dernière, dit, il m'a viré après 3 mois, mais j'ai compris que c'était compliqué de diriger ensemble, mais ça reste un grand personnage. Je suis content de travailler à côté de lui. Il te faut quoi de plus, quoi? C'est un mec qui a gagné la Champions League et qui a fait grandir son club.
Président, je te dis non.
Et je voudrais juste terminer aussi.
Vous avez le droit de pas être d'accord.
Et je voudrais juste, mon cher Xavier, te dire aussi que là, je trouve que c'est réducteur par rapport à ce qui fait la beauté de Marseille et qui donne du rêve aux gens dans une cité qui a des complications de sécurité et compagnie. Ça donne quand même l'image d'un président qui a donné du rêve à toutes les générations. Et Tapie, on l'a vu aux obsèques, et quand même un mec qui a donné du rêve. Eh ben oui, quand il est dans des cités.
Mais c'est un vendeur
quand
de rêve.
Quand on est dans des cités. C'est pas un vendeur de rêve, ils ont gagné la Champions League. Quand il est dans une cité où il y a malheureusement une situation sociale qui est compliquée, où il y a du chômage, où tout ça, ça va mal, eh bien, il faut donner du rêve aux gens. Sauf que le rêve, il l'a gagné, la Champions League. Et donc, à Paris, vous donnez beaucoup de rêves, mais pour l'instant, les enfants, ils n'ont rien gagné.
Il faut pas entendre ces choses. Stéphane, ça fait 3 fois que tu parles de Paris.
Juste pour ta gouverne, sache que je suis né à Toulon. Donc, les Toulon OM, j'en ai vécu quelques-uns.
C'est toi qui fais une obsession.
Mais oui, mais parce que j'ai l'impression que
Est-ce
que vous auriez le même discours avec Paris?
Bon, voilà.
La Champagne, je te compagnie. Est-ce que vous avez le même discours?
Xavier, Stéphane, laissez un petit peu la balle à vos camarades.
T'aimes le football?
Mais je suis passionné.
Mais passe le ballon un peu, ouais. Non, pour répondre à ta question, oui, je pense
qu'il a décomplexé le football français de club, puisqu'on est un des rares pays, sinon le seul pays au monde, à compter plus de trophées en sélection qu'on en compte en club au niveau international. Mais le football de club, certainement, dans cette fin des années 80, parce qu'il l'a dépucelé, même un peu plus que décomplexé, il a dit cette Coupe des Champions, à l'époque c'était la Coupe des Champions, je veux la gagner. Il n'a pas dit « j'aimerais bien être demi-finaliste ou finaliste », non. Il a dit « je veux la gagner ». Et sa grande force, n'en déplaise à certains, c'était d'arriver à convaincre, d'avoir cette extrême force de conviction, de mettre ça dans la tête de ces joueurs français, qui justement, même s'il y avait quelques bons étrangers, hein, ou un garçon comme Rudy Fowler qui avait été aussi très
grosse ossature française.
Grosse ossature française, et c'est de décomplexer. Et d'ailleurs, puisque tu as fait un parallèle avec l'équipe de France qui, avec Hidalgo, avait déjà gagné ses premiers galons, mais les joueurs de l'équipe de France qui étaient aussi à l'Olympique de Marseille étaient des joueurs qui avaient cette assurance au niveau international grâce à cette expérience Fosséo-Tapie. Marseillaise.
Voilà, allez, enfin, les internationaux français de l'époque Tapie, ils ont raté la Coupe du Monde. Bah, ils sont qualifiés pour l'Euro 92. Ils sont fait éliminer au premier tour. Tu peux pas dire que
c'est de la faute à Tapie.
Ce que je veux dire, c'est que ça a pas tellement bénéficié à l'équipe de France cette affaire. Ça a bénéficié un petit peu après avec Deschamps, effectivement, qui a conduit les Bleus à 98 et Marcel Desailly. Mais si tu veux, au moment où l'équipe de France, au moment où l'OM cartonne au niveau européen, l'équipe de France n'en tire pas un grand bénéfice.
C'est pour ça que quand on dit décomplexer le football français, c'est peut-être un petit peu too much, parce que il n'y a pas eu d'effet sur la durée. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'OM qui remporte la Ligue des Champions, puis derrière.
Monaco fait une finale, Paris fait des finales,
Oui,
Larry Bosman qui nous met un coup terrible, parce que reprendre un 10 UEFA, nos auditeurs.
Oui, bien sûr qu'on est très bien à ce moment-là.
Début des années 90, vous allez voir qu'on est deuxième.
Ouais, mais ça n'a pas été un effet. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça a plus eu, il a porté magnifiquement Marseille à ce moment-là. On ne peut pas dire que ça a transformé le football français dans la durée, quoi.
Mais est-ce qu'on pourrait pas terminer positivement pour penser à la famille aussi et dire voilà.
C'est ce qu'on allait dire, évidemment. On a une pensée pour toute sa famille, à Bernard Tapie, à tous les supporters de l'OM qui finalement a beaucoup morflé ces derniers temps entre le départ de René Malvy, le Pape Diouf. Voilà, donc on a toutes nos pensées évidemment pour eux. On revient dans un petit instant, on va ouvrir la page équipe de France, les Bleus qui joueront demain soir face à l'Espagne pour remporter pour la première fois cette Ligue des Nations, et on reviendra, Stéphane, bouchez-vous les oreilles, sur cette victoire 3-2 contre la Belgique, dont le palmarès reste aussi vierge que l'huile d'olive et le noyau Stéphane là entre la gorge. Allez, à tout de suite pour On refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
On refait le match sur RTL jusqu'à 20h, après quoi ce sera RTL Foot avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi. On est toujours en compagnie de David Daiello, François Manardo, Stéphane Powels et Xavier Barré. Xavier, j'en profite pour parler d'un très joli livre que vous nous avez amené, 10 Faubourg Montmartre, une adresse que tout le monde ne connaît pas, mais qui est mythique pour les amoureux de sport. Pourquoi ? Alors je le montre parce qu'on est filmé aussi.
Oui, parce que c'était tout simplement le siège historique du quotidien L'Équipe, qui était l'Auto d'ailleurs à l'origine, qui est devenu L'Équipe en 1946. Et c'était là où se faisait c'était le centre névralgique du sport en France et même au-delà, puisque c'est dans ces locaux, il n'y avait pas de télé à l'époque, il y avait peu de radio, il n'y avait pas d'internet non plus. Donc c'était effectivement la presse qui faisait le sport, qui le racontait et qui même contribuait à créer des compétitions. Et c'est là-dessus que je voudrais insister auprès de nos plus jeunes auditeurs d'On refait le match, c'est que la Ligue des Champions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la Coupe d'Europe de football, elle a été créée dans ces locaux par de nos aînés, de nos anciens qui ont créé le règlement des Coupes d'Europe de football. Le Ballon d'Or dont la liste est tombée hier, pareil, il a été créé aussi par ces journalistes qui ont eu à l'époque cette vision de l'Europe, cette vision de ce trophée légendaire, et qui l'ont créé dans ces locaux. Donc l'association des anciens de L'Équipe, dont je fais partie maintenant puisque j'ai quitté L'Équipe il y a quelques temps, ont écrit ce livre. Alors moi j'ai jamais connu le Faubourg, donc je n'écris pas dans ce livre-là, mais il y a tous nos anciens qui racontent plein d'anecdotes. C'est un très très beau livre avec plus de 500 documents richement illustrés, bourré d'anecdotes, et tous ceux qui aiment le sport, ce sera un magnifique cadeau de Noël pour.
Eh ben voilà, c'est ça. Noël, c'est pas tout de suite, mais enfin, on peut déjà anticiper. Donc, ça s'appelle le 10 Faubourg Montmartre, c'est aux éditions En Exergue. On va revenir juste deux secondes sur Bernard Tapie avec quelques-unes de vos réactions sur la page Facebook, le compte Twitter de l'émission avec Baptiste Durieux.
Beaucoup de messages, évidemment. Certains que je ne vais pas vous lire pour des raisons évidentes, mais d'autres qui sont assez intéressants, comme Yohan qui nous dit beaucoup de superlatifs pour Bernard Tapie, pas forcément celui du plus grand président, mais c'est un boss, un chef, un patron, un leader, un businessman, un courage à tout épreuve, un symbole, mais pas le plus grand président en tant que tel. C'est le point de vue de Johan et le point de vue de Étienne aussi, fidèle auditeur. Quand je vois les Basile Boli, Papin, Deschamps et surtout tous les supporters parler de Tapie avec tant d'émotions, de souvenirs, d'anecdotes, je me dis que ça ne trompe pas finalement et que oui, c'est l'un des plus grands présidents et surtout l'une des plus grandes personnalités sans aucun doute.
Merci beaucoup Baptiste, on se retrouve un petit peu plus tard. Il y aura sans doute aussi des messages sur ce qu'on va évoquer maintenant, à savoir l'équipe de France. On va revenir sur cette Ligue des Nations dont la finale Espagne-France se jouera demain soir. Match à suivre évidemment sur notre antenne sans Adrien Rabiot. On l'a appris, un testé positif au Covid-19. La petite finale Italie-Belgique, je dis ça pour Stéphane et David, se jouera à 15h. Quel choix cornélien pour vous, votre équipe nationale ou Michel Drucker? Bon, vous verrez.
Bah, Michel.
Michel, bon, d'accord. D'ailleurs, il n'y aura ni Lukaku ni Hazard demain pour la finale.
Raison de plus.
Voilà. Michel. Bon, mercredi, donc, les Bleus ont battu la Belgique 3-2 après avoir été surclassés et menés 2-0 à la mi-temps. Première question, messieurs, pour vous, ce match, la France l'a plus gagné ou c'est la Belgique qui l'a plus perdu?
Un peu des deux, mon capitaine.
Ah oui, mais enfin, je veux une réponse là.
C'est la France qui le gagne au final. Donc voilà, pour être de manière tout à fait pragmatique.
C'est très déchant comme réponse. Très pragmatique.
Il y a plus que ça.
Quand tu es avec une sélection, tu t'aperçois que finalement, c'est des conclusions assez simples. Catastrophiques en première période. D'ailleurs, moi, je me demandais si on n'allait pas avoir une valise un peu plus conséquente au bout de 90 minutes. Et puis, ils se ressaisissent parce que, je ne vais pas dire qu'ils ont sifflé la fin de la récréation, mais ils se sont dit que c'était bien d'avoir des qualités. Mais avant tout, il fallait d'abord s'imposer physiquement, être plus agressif, être plus haut dans le pressing. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait de manière coordonnée. La Belgique a trop reculé, je trouve. Je ne pense pas qu'elle ait eu peur, mais elle a trop reculé. Ils l'ont fait payer l'addition. Après, ça se joue sur quelques détails après, en fin de match.
Tu sais, François,
la France a gagné ce match.
Je suis beau joueur parce que je pense qu'après, à un moment, il faut arrêter aussi de parler de l'arbitrage, de la VAR et tout ça. Il y a un match qui s'est déroulé et la France a gagné. Et les buts, il y a pénalty et il y a hors-jeu. N'en déplaise. Après, moi, je ne suis pas là pour dire c'est bien que la VAR ou pas la VAR. Moi, vraiment, si va être une analyse d'extérieur là, en tant que Belge, c'est que je pense que c'est Didier Deschamps, ça fait deux matchs qui bat Martinez. C'est 2-0. C'est 2-0 parce que je pense que dans l'histoire du football belge, nous n'avons jamais autant dominé sur 45 minutes l'équipe de France. On a pris des 5-0, on a pris des valises. Il y a 3 ans, on était dans de la rivalité. Mais là, en première mi-temps, on est pas mal, on va dire ça comme ça. Tu mènes 2-0 et dès le début de cette deuxième mi-temps, tu sens que les Français, comme tu dis très justement, ont changé d'attitude, ont envie de jouer différemment et ils te font mal.
Oui, parce qu'ils ont changé que ça, il n'y a pas de coach.
Et le sélectionneur belge ne réagit pas, il doit sortir des joueurs qui sont fatigués. Qui sont fatigués. Ouais, mais je peux te dire que c'est unanime en Belgique. Hein. C'est pas nouveau, il l'a fait contre l'Italie.
On tape toujours sur les sélectionneurs, mais normalement c'est les joueurs qui étaient sur le terrain.
Je vais te répondre une chose. Là, on va vraiment parler football. On défend à 3 derrière les Belges. Ça fait 2 ans que je le bugle.
En première période aussi, défendait à 3.
Avec de Denayer et compagnie qui sont lents. Oui, mais Chiesa, il nous l'a mis dans le dur en fin de match contre l'Italie. Et il prend pas de décision. Ça veut dire qu'il y a un moment, quand tes Français reviennent dans le match et que tu vois que Benzema, les mecs prennent, et ils sont 5 à le regarder, Benzema à faire une photo, il arrive à marquer. À ce moment-là, tes sélectionneurs prennent une décision, descend à 4, joue à plat à 4 et tu bétonnes. Parce que tu sens que derrière tu vas souffrir. Il prend rien, aucune décision. S'il nous fait quand même rentrer Batshuayi à la 92e minute, ce sélectionneur ne prend pas les bonnes décisions. Tu sais pourquoi j'ai les boules? Pas d'avoir perdu contre les Français. Je pense qu'on avait pour une fois les cartes en main pour pouvoir les battre.
Non, mais Stéphane,
et on l'a pas fait. Rappelez-vous
quand même qu'à quoi 4 centimètres près, Lukaku marque, le match est plié.
Oui, il est en jeu.
Je voudrais vraiment rebondir sur ce que tu dis sur à chaque fois cette manie de taper sur les sélectionneurs, etc. François l'a bien rappelé, il y a un changement de mentalité du côté français. Je veux dire, là, quand tu me dis c'est Martinez qui s'est fait battre
par
Deschamps.
David, c'est pas belge. Hein. Ça fait 5 ans qu'on nous parle d'une génération dorée.
Il n'y a pas eu de révolution tactique de la part de Deschamps. Comme tu dis, il n'est pas passé à 4-3-3 alors qu'ils étaient menés 2-0. C'est juste que les joueurs, et d'ailleurs, les joueurs ont commencé à le révéler, se sont pris en main. Alors, bien sûr que Deschamps, à la mi-temps, a poussé sa petite gueulante et c'est légitime. Mais encore, d'après ce qu'on a compris, il a plutôt été dans le positif. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de penser que les sélectionneurs, les entraîneurs ont tout le pouvoir sur le résultat des matchs. Mais ça n'a rien à voir avec les Belges. Mais David, c'est une généralité. Non, c'est que David, le football appartient aux footballeurs.
Alléluia. Non mais David. Vraiment, j'entends bien ton argument. Bah oui, mais mets-toi à la place des Belges. Non, 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 ça fait 5 ans. Je ne sais pas si tu te rends compte.
Ça fait 5 ans que c'est à cause de Martinez que vous êtes numéro 1 au classement FIFA.
Au classement Coca-Cola qui veut rien dire. On joue des matchs amicaux. Laisse-moi finir. Et dans les top 10. Non, non, mais moi ça m'arrange pas le numéro 1 classement Coca-Cola parce que tu fais déjà des matchs amicaux contre des Brels.
Stéphane,
est-ce que je peux finir ou pas?
Oui, mais vite, on parle de l'équipe de France. On est en France,
monsieur. Mais non, mais je vais quand même vous dire. Eh bien, justement, pour mettre en valeur aussi le travail de votre sélectionneur, c'est que le nôtre, à un moment, il ne réagit pas. Et que le nôtre, depuis 5 ans, on nous parle d'une génération exceptionnelle, que nous n'avons rien gagné. D'ailleurs, vous voulez un peu d'humour parce que vous êtes français. Tu sais pourquoi on n'a pas gagné quand tu es français? Titi n'était pas là, quoi. Il y avait mal au dos. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Oui, alors... Qui nous sert à rien, qui part 3 fois et qui revient 3 fois.
Stéphane,
qui nous sert à rien. Et ce sélectionneur est à côté de ses pompes. J'en arrête. Même compris. Si le football appartient aux joueurs, il y a peut-être les joueurs.
Oui, mais justement, que... le football appartient aux joueurs. Les joueurs français ont su se mettre une pile et les joueurs belges n'ont pas su réagir quand ils sont fait marcher dessus.
Aussi.
Mais surtout, c'est pour ça que moi je
c'est
retiens.
C'est pragmatique de... ça, non, monsieur Bien au contraire, monsieur
Manard. Alors, moi, je trouve que la conclusion, elle est toute faite.
Bon, ben, tir au but de délimitation. Oui, parce que les Bleus, ils ont réagi. Souvenez-vous, le France-Suisse de l'Euro, ce qui se passe en deuxième période, les Français réagissent vachement bien. Il y a en plus un changement là de dispositif tactique. Ouais. Et l'équipe de France, elle prend le dessus sur la Suisse. Et puis finalement, elle arrête de jouer à 10 minutes de la fin. Et ils se font rejoindre, ils se retrouvent en prolongation, ils perdent au tir au but. Là, ils ont su réagir, ils ont su se prendre en main, et ils ont su s'accrocher jusqu'au bout.
Ce que nous n'avons pas fait, les Belges.
Voilà, mais voilà, je pense que c'est d'abord la qualité, le bénéfice de l'équipe de France et des joueurs de l'équipe de France. Sans révolution, sans bouleversement, simplement par un investissement, par une réaction personnelle. Les collectifs des uns vis-à-vis des autres. Et moi, je dis chapeau, je suis fier de cette équipe de France.
Xavier, mais les Belges ne peuvent jamais perdre ce match. Les Belges, à 2-0 contre les Français à la mi-temps, avec le talent que tu as, tu dois pouvoir, même si ce n'est pas un talent exceptionnel, mais avec cette équipe belge-là, tu ne peux jamais perdre contre les Français.
Eh oui. Et pourtant, tu as perdu.
Ah,
mais Stéphane, tu n'as pas des preuves en France non plus. Je veux dire, tu as vu les talents qu'il y a en équipe de France. Évidemment, tu peux, à 2-0, c'est pas plié. Tu as vu les joueurs qu'il y a en équipe de France. Évidemment,
tu peux pas réagir. Jamais tu
vas pas réagir. Non, mais
tu veux te le faire.
Alors, c'est votre grand talent.
Stéphane, jusqu'à 20h, on va jouer au ni Roberto ni Martinez.
On
va parler d'autre chose. Comment vous expliquez cette équipe de France au visage un petit peu Édouard Philippe? Un côté noir, un côté blanc. Non, mais sérieux,
ça c'est vilain.
Là, on a quand même deux salles, deux ambiances. Comment on peut avoir deux visages aussi différents?
Moi, je l'explique par une équipe à réaction. D'ailleurs, les stats le prouvent, hein, pas que sur le match contre la Belgique, mais sur ces derniers matchs. C'est une équipe de France qui est un peu, je trouve, moi, narcissique quand elle entame les rencontres, parce qu'elle regarde un peu Théo, peut-être son blason de championne du monde. L'Euro, c'est fini et mal fini. La Coupe du Monde, c'est passé. Je pense qu'ils ont, avec la piqûre de rappel des 45 minutes contre la Belgique, enfin compris que si tu ne mettais pas d'abord le bleu de chauffe et qu'ensuite tu déroulais la technique, tu n'obtiendrais pas de résultat. Et cette équipe de France-là a eu tendance un peu à se regarder le nombril et à réagir. Alors, c'est passé juste contre la Belgique. L'Espagne, ce sera complètement différent dans l'approche du match, parce que c'est une sélection qui a des qualités différentes que celles des Diables Rouges. Mais il faudra que les Français, pendant 90 minutes et pas 45 ou 60, soient concentrés et surtout très très rigoureux.
Est-ce qu'ils en sont capables?
Parce qu'on a l'impression qu'ils en sont capables. Regarde, s'ils le font 45 minutes, ils peuvent le faire.
Oui, mais François, depuis 2018, il y a quand même toujours des sautes. Ne serait-ce que cette défense, on a été comme champion du monde grâce à cette défense de fer. On prend quand même énormément de buts. Oui. C'est pas inquiétant ça?
Oui, c'est inquiétant. Mais pourquoi tu prends Regarde, qualitativement, on n'a pas chuté. Non. Mais même si c'est pas exactement les mêmes joueurs, mais on a un bloc
qui fait en défense.
Plus ou moins son travail. Tu as des changements, mais n'importe comment, ça part par une rigueur. Cette application à jouer en bloc et ensuite à ressortir. Pour ressortir, on n'a aucune difficulté normalement sur le papier. Benzema apporte un liant qui est je trouve, moi, mais fondamental dans le jeu offensif, mais il faut être, excusez-moi d'excuser cette expression, mais au taquet pendant 90 minutes et pas 45.
Si cette défense est moins performante, moi, alors j'ai plus le chiffre précis en tête, mais la défense Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, elle avait joué combien de matchs consécutifs sous le maillot bleu? C'est un nombre phénoménal. Je crois qu'ils étaient à 50 ou 60.
Non, mais c'était des
Alors que là, cette équipe de France, depuis la Coupe du Monde, en défense, elle a été vachement bousculée. Il y a Umtiti déjà qui est sorti pour des raisons physiques, qui peut plus jouer. Ensuite, Lucas Hernandez, il est quand même souvent blessé. Benjamin Pavard aussi. Donc ça tourne en permanence. Donc vous n'avez pas la même solidité qu'il y a pu y avoir il y a 20 ans.
C'est une équipe qui se déséquilibre beaucoup plus. Elle a envie de marquer aussi des buts et montrer du panache qu'elle n'a pas montré en 2018. et elle se déséquilibre un peu trop. Et après, il faut qu'elle resserre les verrous. Et c'est un peu tard parfois.
Et il faut de la discipline. Et vous aussi d'ailleurs, parce que maintenant c'est la petite pause. On revient dans un instant pour refaire le match sur RTL.
RTL, on refait le match.
Florian Gazan.
On refait le match jusqu'à 20h avec David Ayello, François Manardo, Stéphane Powell, c'est Xavier Barré. On continue à parler de l'équipe de France, cette équipe de France à deux visages. Bon, on a parlé de la problématique de la défense, mais une équipe, c'est une question d'équilibre. Et là, forcément, en mettant ces trois devant, ça a un petit peu changé les choses. Justement, on va en parler de cette caca, excusez-moi, mais Kylian, Karim, Antoine, ça fait ça.
ça, c'est nul. Là. Ça, franchement. Bah, non, mais écoute, ça, c'est pas les grosses têtes.
On avait des doutes, en tout cas, pendant l'Euro, sur leur complémentarité. Et est-ce que après cette deuxième mi-temps contre la Belgique, ils sont définitivement levés.
Alors, est-ce que je peux me permettre juste un regard?
Si c'est pas sur la Belgique, oui.
Non, c'est sur les Français. Je pense que c'est vraiment un match... Je sais que vous n'aimez pas ces mots-là, un match référence. Oh, bon. Je vais pas parler de football, je vais parler d'attitude. L'attitude de faire qu'à un moment... tu te révoltes, qu'à un moment Benzema devient le leader naturel de cette équipe, qu'à un moment Mbappé a décidé de devenir altruiste, et ce que fait Benzema en lui donnant le ballon pour le pénalty, ce n'est pas un cadeau empoisonné. Je pense que tout ça fait partie d'une nouvelle équipe. Tchouaméni qui rentre bien. Je pense que vous êtes parti. Je pense que c'est un match qui va marquer des points dans l'attitude de l'équipe de France pour la suite.
Moi, je pense que ça, tout ça, c'est fragile et c'est bien qu'on ait François qui soit là avec nous ce soir parce qu'il connaît les sélections de l'intérieur. Les égos, ça reste, c'est toujours fragile. Donc là, partir sur ce qu'on a vu, en tirer des conclusions sur
c'est un match référence, etc.
Oui, mais pour moi, sur ce qu'on a vu avant aussi, on a vu que c'était pas évident. On sait que au sein même de l'équipe de France, Griezmann, Mbappé, ça a pu être compliqué. Il y avait également le cas Giroud. Je pense que au-delà des considérations sportives, je pense qu'il y a un choix du sélectionneur d'écarter Giroud qui s'appuie sur ce constat-là. C'est que c'est quand même il y a des égos à gérer au sein de l'attaque et qu'il va falloir faire des choix. Donc moi, je vais rester prudent. Bien sûr que techniquement, on a vu des choses formidables et qu'on commence à se dire, tiens, ça peut être intéressant. Mais moi, je reste prudent sur le fait que au global, toute cette équipe puisse faire ses efforts.
Non, puis il y a le contexte. Là, on est dans une mini-compétition, un tournoi, un final fort. Donc, vous avez une demi-finale et une finale et vous avez un titre, même si c'est un titre un peu nouveau.
Ouais, récent, mais ça commence à compter.
Voilà, ça compte, exactement. Et Deschamps insiste beaucoup là-dessus. Quand vous allez avec ce même groupe, et on l'a vu en Hongrie, là, enfin en Hongrie et ailleurs pendant le dernier Euro, pendant un mois et demi, c'est pas les mêmes rapports. Il faut se supporter plus longtemps, il faut ménager les susceptibilités des uns et des autres. Là, ils sont en mission commando pendant 10 jours ensemble. Allez, on prend un titre et on rentre à la maison. C'est plus facile à gérer.
Bien sûr, c'est ça.
Et c'est pas François qui était à Naïsna qui va me dire le contraire.
Non, avec l'équipe de France. Après, Naïsna, c'est encore autre chose. Mais je suis pas venu pour en parler. Mais oui, le fait que ce soit.
On aimerait bien quand même un peu.
Le fait que ce soit très concentré, effectivement. Avec cette victoire et le scénario de cette victoire, là, ils sont pleines balles pour la finale demain. S'ils jouaient la troisième place, la fragilité dont parle David, elle serait évidemment sensiblement plus accentuée. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils ont l'avantage par rapport à l'Espagne d'aborder ce genre d'événement qui est une finale avec plus d'expérience. On va peut-être en parler. En revanche, en face, c'est pour moi, par rapport à la demi-finale que j'ai vue contre l'Italie, mais pas seulement, mais c'est le meilleur fort. Client dans le monde.
Est-ce que quand même, malgré tout, dans ce plan A3, si je puis dire, il y a toujours forcément deux qui s'entendent mieux que les autres? Est-ce que dans ce trouble, nouveau concept, le trouble,
c'est pas mieux, hein.
C'est pas mieux. Allez, une autre.
Non, mais on a là quand même l'impression que Mbappé, Benzema, voilà, ça colle, ils s'entendent, et que quand même Griezmann, et on l'a vu aussi sur sa deuxième mi-temps, c'est quand même un petit peu encore en marge. Est-ce que vraiment on peut arriver à avoir un vrai trio?
Non, mais c'est sévère parce que sévère, avec Griezmann, bon, il vient d'une saison compliquée, on va pas le refaire. Il est en train d'essayer de retrouver ses galons dans son nouveau club, à l'Atlético. Moi, je trouve que c'est un type forcément qui se sacrifie pour un collectif. Tu peux pas demander que des trois soient brillants à tous les matchs. Je signale quand même que le match que vous avez eu précédemment, le meilleur sur le terrain qui met 2 buts, il s'appelle Griezmann. Donc je pense qu'à un moment, à chaque rencontre, il y a des mecs qui sont au-dessus du lot.
Non, mais je parle pas de son niveau, je parle de cette association.
Mais cette association, tu peux pas demander que les trois, ça soit génial à tous les matchs. Moi, je pense qu'il se travaille, défense, tout le monde le sait, qu'il fait son travail défensif, et je trouve qu'il a fait un bon match.
Et puis après, il y a un élément qui est important, à mon sens, c'est que je le ressens comme ça, je pense qu'il y a une vraie volonté d'y arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai parlé des égos, mais je pense qu'en même temps, ils le répètent un petit peu façon tarte à la crème sur le fait que l'important c'est le collectif, etc. Mais je pense que vu leur expérience du plus haut niveau, ils savent très bien qu'ils ont besoin de s'entendre tous les trois et que c'est indispensable. Donc le fait qu'il y ait cette volonté de ces trois-là d'y arriver, je me dis, ils vont peut-être à un moment, effectivement.
Mais c'est des grands professionnels. Tout le monde sait que Griezmann, c'est pas le grand amour avec Kylian Mbappé.
Mais je pense que c'est important. Et que par ailleurs, quand même, quand on regarde le talent individuel de ces trois joueurs, moi, la complémentarité, j'y crois, oui.
Mais quand t'es pro, tu joues dans le collectif. Je pense que même s'ils vont pas aller en vacances en théorie. Ouais. Non, mais ouais, je pense que même s'ils s'apprécient pas merveilleusement, ces deux joueurs-là, ils peuvent être grands professionnels et travailler dans.
Je pense qu'ils ont arrêté de se dire que la Suisse était un accident. Tu vois, à la mi-temps là du match contre la Belgique, ils ont arrêté de se dire que la Suisse était un accident. Arrêter, ouais. Et ils ont commencé à se dire vraiment, c'était notre erreur en fait. Ouais. C'était notre erreur. Donc soit on a 45 minutes pour s'enfoncer, pour s'enliser, soit on réagit. Et si on réagit, on a toutes les qualités pour le faire, mais ça passe. Comme je l'ai déjà dit,
par
l'effort collectif, mais surtout par, je voudrais pas être mal interprété, mais par leur entrée dedans.
Et c'est
ce qu'ils ont bien fait.
C'est aussi basique que ça.
Fallait mettre le pied, ils l'ont pas fait en première mi-temps, ils ont laissé regarder jouer les Belges, et là forcément, comme t'avais des mecs avec la qualité, c'était possible, mais t'as pas mis le pied. En fait, vous êtes rentré vraiment de manière tout à fait relaxe.
On s'est dit, c'est que la Belgique.
Ça fait 6 fois que tu le fais, tu vas passer vraiment pour un mec, un anti-belge, c'est
mais
pas
j'adore
bien.
J'adore
alors que t'es un mec sport en face de toi. Vous êtes rentré avec de la suffisance, faut pouvoir le dire.
Mais Stéphane, tu l'as pas dit, mais il est pro-flamand.
Juste pour revenir, Flo, sur la question rapidement, parce qu'on s'est éloigné, on est revenu sur la Belgique comme par hasard.
Mais
à la base, on parlait quand même de notre trio, je vais le dire comme ça, moi. Moi, il y a quelque chose qui me paraît essentiel, c'est également le rôle que peut se donner Griezmann, c'est-à-dire qu'on sent bien que on a les deux autres qui sont un petit peu les stars techniques, etc., qui on va avoir les dribbles et tout ça. Mais dans ce trio-là, le rôle de Griezmann, il est essentiel. On sait très bien que le côté bleu de chauffe, le côté être même dans sa position, d'être au service de ces deux-là pour les alimenter, c'est merveilleux au sein d'un trio comme ça d'avoir un joueur comme ça.
On espère en tout cas que ça fonctionnera demain soir pour cette finale à 21h de la Ligue des Nations face à l'Espagne. En un mot, votre pronostic, France ou Espagne ? Soyez objectifs, messieurs.
France.
David ?
Ah, France.
Ouais. C'est un France teinté d'Espagne. Baptiste Durieux, quelques messages sur nos bleus.
Et effectivement,
sur la page Facebook et Twitter.
Et notamment sur ce trio, William nous dit Deschamps avec Mbappé, Benzema et Griezmann, c'est comme Pochettino au PSG avec Messi, Neymar et Mbappé. Il est obligé de les aligner, que ça marche ou pas. Alors que pour le bien de l'équipe, je pense que ce n'est pas la bonne réponse à l'équation. Message de Thomas également. Ce que j'attends de ces bleus, c'est que le pressing, l'intensité, l'envie, la rigueur n'arrivent pas par magie en seconde période parce qu'ils sont menés des zéros. Face à l'Espagne, la bonne attitude, c'est tout de suite, maintenant et du début jusqu'à la fin. Et puis message d'Axel qui est assez pessimiste finalement, il nous dit on a vibré, on a kiffé, mais finalement on n'a rien appris de ce France-Belgique et on n'est pas du tout rassuré, aucun enseignement concret, si ce n'est que oui, Benzema sait jouer au foot et Mbappé aussi, formidable. Au-delà de ça, une équipe n'est pas encore née pour moi.
Peut-être qu'elle naîtra demain soir. Merci beaucoup Baptiste. Dans un instant dans Orphée le match, on ouvre le dossier Mbappé, ou plutôt Mparler, puisque cette semaine il a enfin pris la parole dans l'équipe, sa maman dans le Parisien, il manque plus que le papa dans le Figaro, le petit frère dans le journal de Mickey, et on aura l'intégrale de la famille. Pourquoi ce coup de com' et quand retenez-vous ? À tout de suite sur RTL.
On refait le match sur RTL
avec Florian Gazan.
Jusqu'à 20h, après quoi ce sera donc RTL Foot, toujours avec David Aiello, Xavier Barré, François Manardo et Stéphane Powels. On va donc parler de Kylian Mbappé qui a enfin pris la parole cette semaine, une longue interview notamment dans le journal L'Équipe, le lendemain sa maman dans le Parisien. On va revenir sur cette campagne de com'. Pourquoi s'exprimer maintenant ? Est-ce que c'est le bon moment pour vous ?
Pour une raison très simple, oui, parce que tout simplement il est avec l'équipe de France, donc il risque pas d'avoir son coach ou son président ou son directeur sportif qui le lendemain matin à l'entraînement, au centre d'entraînement, va venir lui faire un petit brief en lui disant dis donc.
C'est pas ça là, c'est plus non, par rapport à l'opinion publique, parce que ça, je veux dire, ils peuvent lui passer un coup de fil et je veux dire, c'est plus le timing effectivement de se dire il y a une fenêtre internationale, là tu as raison, où on n'est pas dans une atmosphère club, il n'y a pas de match au Parc des Princes dans les 3 jours, etc. Donc il y a un relatif calme médiatique autour du Paris Saint-Germain.
Une espèce de trêve,
voilà. Et moi, il y en a vraiment. Moi, j'en ai vraiment marre avec Kylian Mbappé. vous en déplaise. J'en ai marre qu'ils fassent le Briou, je l'ai dit hier dans l'équipe d'Éric Silvestro. Le Briou, ça fait ce que c'est dans le Schnorr, c'est pleurer, c'est chouiner tout le temps. Et je veux dire que moi j'en ai ras le bol parce que c'est pas la première fois.
Mais il pleure de quoi?
Il pleure de voilà, donc on peut pas finir. Et donc la dernière fois avec le président de la fédération quand il demande pour aller voir Le Graët, c'est tout le temps. Non,
mais tu sais pourquoi il allait voir le président
Le Graët? Mais tout le temps.
Stéphane, c'est important quand même.
Explique dans l'interview.
Il explique quand même qu'il s'est fait traiter de singe. Excuse-moi, mais effectivement.
Est-ce que tu penses?
J'aurais voulu avoir le soin de la fédération.
Tu vois, non, donc mais à un moment, ça peut une... on peut rien dire de mal.
Mais
moi,
non,
je pense.
Je te donne les faits.
Est-ce que tu penses que c'est le seul joueur qui, malheureusement, est
donc
atteint de racisme, de xénophobie?
Donc
mais parce que c'est Kylian Mbappé, il doit donc aller voir Noël Le Graët. Il faut arrêter
c'est
de chouiner tout le temps.
Moi,
je pense que Kylian Mbappé, je l'aime quand il joue bien au ballon, quand il a la tête haute et pas quand il chouine. Voilà, j'ai quand même le droit de le dire. Il pleure tout le temps.
Mais
on peut rien dire parce que c'est Mbappé.
Ça fait 3 mois qu'on se pose des questions. Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il voulait
qui
partir,
se pose
etc.
Des questions
mais tout le monde, toutes les semaines. Mais
tout le monde sait que c'est une question de pognon, du rapport de force avec Paris.
Il donne sa version. Il donne sa version. Et moi, je trouve ça bien qu'il tire les choses au clair. Mais si, on peut les dire. On peut les dire. Après, tu peux interpréter ses réponses. Tu peux dire que ses réponses, peut-être, l'arrangent. Peut-être qu'elles sont biaisées. Peut-être que tu as des éléments pour contredire ses réponses et ses versions. Mais moi, je suis plutôt intéressé.
J'ai le droit de te dire que j'aime ce joueur. J'aimais le joueur.
Mais vous l'avez dit, Stéphane.
Qui s'exprime bien. Mais non, mais Florian, comme c'est Paris, on peut rien dire. Et comme c'est
le Paris, on parle de
Je suis en train de vous dire qu'il est jeune et que j'ai quand même connu dans toute l'histoire du football des grands joueurs qui ont aussi été dans le dur, dans des périodes compliquées, qui ont aussi vécu du racisme et qui ne sont pas systématiquement demandés pour aller voir le président de la fédération, donner une interview.
Mais c'est ridicule, une demi-question dans l'interview. Bon, il est battu en disant qu'il se fait insulter, il se fait siffler sur tous les terrains de France et qu'il encaisse et qu'il passe à autre chose. Justement, ça vaut le coup de parler d'autre chose. Il dit quand même des choses. Il dit par exemple, quand il entend le président Nasser Al-Khelaifi qui dit écoutez, il ne partira pas et il partira pas libre alors qu'il a un an de contrat. Donc lui, il veut bien partir maintenant, comme ça le PSG s'y retrouve. Et d'ailleurs, moi, au passage, je trouve qu'ils sont vachement bien, les Mbappé, parce qu'ils ont fait la même chose à Monaco. Ils ont prolongé pour que Monaco prenne un billet sur son transfert à l'époque, alors qu'ils auraient pu partir libre.
Et là, il dit, ils font la même chose.
C'est sa version à lui. C'est sa version à lui. Il dit, moi, j'étais prêt à partir maintenant pour que le PSG récupère un billet. Bon, le PSG veut pas le laisser partir. Et derrière, il y a le président Nasser Al-Khelaifi qui dit, il partira pas et il partira pas libre. Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? S'il part pas maintenant et dans un an il part pas libre, ah bon, comment ça se fait alors? Parce qu'en France il y a effectivement le contrat à temps. Donc là, moi je comprends qu'il se pose la question et il en fait état dans l'interview. Donc il y a plein
et
de.
Et c'est nécessaire l'interview là maintenant, dans l'équipe maintenant?
En tout cas, ça a apporté beaucoup de réponses à des questions qu'on se posait.
Avec il y a 2 matchs pour gagner la National League, c'est nécessaire?
En tout cas, il parle aussi de l'équipe de France. Il a apporté des réponses sur l'équipe de France, il les a apportées sur le terrain.
On va poser la question à François parce que pour le coup, la com, la presse, il connaît, il a fait. François, ce moment-là.
Moi, sur la forme, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est comme d'habitude avec lui, c'est clair. On a des réponses à pas mal de questions. En revanche, sur le fond, moi, je retiens 2 choses. La première, c'est quand il nous explique, parce qu'il a pas fait que l'équipe, il a fait également un concurrent de cette chaîne. Il explique qu'il a fait savoir sa volonté de quitter le club assez tôt, après l'Euro, donc, à la direction du Paris Saint-Germain, et ça permettait à la direction du PSG de se retourner. Si ça permettait à la présidence, à la direction du PSG de se retourner sportivement, je comprends pas très bien à ce moment-là pourquoi le Real Madrid, à 2 semaines de la fin du mercato, sort du bois. On sait très bien qu'a priori, la prochaine étape, lui-même le reconnaît, hein. Il fait pas mystère de ça dans sa carrière, c'est d'aller au Real. Donc, ça aurait permis au Real de faire une proposition plus sérieuse s'il voulait donner de l'argent au Paris Saint-Germain. Et j'en doute, je pense que c'était un énorme coup de bluff de la part du Real. Et je comprends pas pourquoi lui, il a prévenu... pourquoi il dit plutôt « je laissais au PSG le temps de se retourner ».
Est-ce qu'en un mois, on peut remplacer Mbappé?
En un mois, tu peux commencer dans l'urgence à y travailler. Mais
qu'est-ce
la
qu'il
fin
dit du coup François là-dedans, du coup?
Mais s'il le dit assez tôt à sa présidence, il doit, par ses relais, forcément activer à Madrid le fait qu'il l'ait dit à sa présidence et que du coup, le Real puisse sortir du bois pour faire les choses proprement. Et en un mois, peut-être, Florian, c'est quand même très court pour un transfert de Takabi, mais en un mois et demi, tu peux commencer à poser tes pions quand t'es le Paris Saint-Germain, on le sait là aussi pour Haaland. Bon, 2 semaines, c'était pas possible, c'était un coup de bluff, ils vont l'avoir gratuit dans un an. La deuxième chose, et vous l'avez dit, c'est le timing. Il profite de la fenêtre internationale. M'est avis que le Paris Saint-Germain a découvert son intervention sur RMC et celle dans l'équipe, que par contrat,
c'est quelque chose qui est très clair pour les joueurs, c'est qu'ils doivent prévenir leur club en amont quand ils vont accorder une interview et qu'elle se fait hors temps du club, et qu'il avait aussi tout ce temps avec le Paris Saint-Germain pour prendre la parole, comme il l'a fait très bien d'ailleurs dans les médias qu'on a cités, pour mettre les points sur l'i et les barres sur l'été. Il ne l'a pas fait. Il a profité de ce temps de la sélection et il l'a fait à l'insu de son club qui a découvert ses déclarations. Je trouve que c'est une nouvelle forme, moi, de mettre un petit coup, je dis bien un petit coup de cutter dans le contrat avec, avec son employeur.
On va en reparler dans un petit instant de Mbappé, de cette interview passionnante, sa maman aussi. On a pris quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je voudrais votre avis là-dessus dans un instant.
Florian Gazan sur RTL.
On refait le match.
On refait le match et on refait la com de Kylian Mbappé, donc avec cette grande interview dans l'équipe et chez nos confrères de RMC, effectivement. Évidemment, on l'a interrogé sur son avenir, c'est ça qu'on attendait tous. Alors là, il nous la joue sur l'air classique du « dans le football, on ne sait jamais ». En gros, c'est pas sûr à 100% qu'il parte au Real. Chose confirmée par sa maman au Parisien le lendemain, qui dit discuter avec le PSG d'une éventuelle prolongation. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette posture? Est-ce que c'est le retour du poker menteur? C'est quand même assez étonnant.
Ouais, c'est étonnant, mais en fait, finalement, c'est le cœur de l'interview, parce qu'effectivement, il y a l'épisode de l'été qui est intéressant pour décrypter un petit peu, mais bon, on a envie surtout de savoir comment il se positionne par rapport à l'avenir. C'est quand même un exercice d'équilibriste extrêmement compliqué, parce que je pense qu'effectivement, il fallait qu'il parle. Il fallait qu'il parle parce qu'il y a encore une saison à jouer et que il faut bien comprendre que là, au mois de novembre, au mois de décembre, tous les médias espagnols vont revenir à la charge sur il va signer le 1er janvier, etc.
Oh ben, ils vont revenir dès là. Hein,
de toute façon, ils sont déjà revenus. Mais de toute façon, il avait une obligation de se positionner et d'essayer, comme je disais, d'être sur un point d'équilibre extrêmement compliqué, qui est de dire j'ai une saison à jouer avec Paris, je vais mouiller le maillot, et c'est ce qu'il fait depuis le début de saison. Et en même temps, si son désir effectivement c'est d'aller au Real Madrid, vous comprenez bien qu'il va pas dire au mois d'octobre, moi au 1er janvier je vais signer à Madrid. Donc pour moi là, actuellement, on est possiblement dans cette position là qui est de rester un petit peu sur ce thème, à savoir je veux donner le meilleur pour le Paris Saint-Germain, ne pas se positionner vis-à-vis du Real Madrid. Après, il y a encore plein de possibilités. Il y a la possibilité aussi de prolonger d'un an pour que finalement, ce qui devait se passer.
C'est un doux rêveur, c'est Remember of Past. C'est le souvenir du passé. Ils sont en train de mettre la pression pour faire monter les enchères.
C'est possible aussi.
Il est en train de mettre la pression pour essayer d'obtenir le plus possible
que la famille Mbappé se positionne pour prolonger d'une année. Pour prolonger d'une année, pour que le club finalement récupère un petit peu d'argent aussi. Aujourd'hui, toutes les cartes sont sur la table. Je te rappelle également que le Real Madrid, aujourd'hui et depuis plusieurs années, c'est plus le Real Madrid d'il y a 10 ans qui régnait sur l'Europe. Donc il y a plein d'éléments qui rentrent dans sa
considération. Pérez a fait le ménage. Pour
oui, d'accord, mais aujourd'hui
tu as viré
équipe,
tous les joueurs.
Tu n'as plus la même équipe qu'il y a 5 ans.
Non, il saute pognon, il essaye d'obtenir avec la famille.
Mais c'est pas que ça. À son niveau, c'est pas que ça. Il veut la meilleure équipe possible.
Il veut la meilleure équipe. Maintenant, il va au Real et tu es en train de dire il veut la meilleure équipe possible.
En fait, aujourd'hui, il veut la meilleure équipe.
C'est normal d'ailleurs. Pas tous en même temps.
Il veut être la tête de gondole de l'équipe, du projet sportif dans lequel il s'intègre. Or, quand le Paris Saint-Germain recrute Messi en plus de Neymar, et ben les un des trois. Là, tel que Florentino Pérez a fait le ménage au Real Madrid cet été, et bien Mbappé, il arrive comme étant la star, la tête de gondole du projet madrilène. Un petit peu si tu veux, mais
non,
après
il
a toujours assumé ses ambitions. Il le dit, je veux être le meilleur.
Quand c'est Cristiano Ronaldo, c'est formidable.
Quand il pose avec Pelé, il s'inscrit dans la. Il veut marquer l'histoire. Il le dit, il s'en cache pas. Donc effectivement, tu peux dire qu'il a le boulard.
L'histoire, il aurait dû le faire à l'Euro.
C'est pas le boulard, ça s'appelle de l'ego.
De l'ego, sinon tu peux pas être un grand champion.
D'accord.
Mais est-ce que quand même, malgré tout, le fait que Messi est arrivé, alors oui, effectivement, Messi, ça fait un petit peu d'ombre, mais enfin, ça quand même bonifie normalement sur le papier l'équipe. Est-ce que quand même ça peut lui mettre la graine du doute de se dire, parce que c'est effectivement un jeune homme pressé qui veut gagner énormément de titres, de se dire, peut-être quand même que en restant à Paris un an, deux ans, je peux gagner des titres que je gagnerai pas forcément tout de suite.
Il a gagné un titre, Florent.
Oui, il a gagné
le titre.
The title.
Et quand tu. Enfin, c'est pas mes yeux. Il suffit d'aller. Dans la salle des trophées du Real et dans celle du Paris Saint-Germain, tu comprends où va le sens de l'histoire. Et lui, il a parfaitement pigé. Et dans sa réflexion, puisqu'il veut être le numéro 1, mais pas le numéro 1 en Europe, il veut être dans le monde et s'inscrire comme ça dans une des années, il va aller dans le plus grand club du monde.
Ouais, il veut y aller, mais je pense que dans sa réflexion, il y a aussi l'idée de se dire,
le plus grand club n'est pas la plus grande équipe.
Voilà, c'est ça. Je veux y aller. Je pense que là, dans sa phrase,
ils vont la lui construire.
Oui, mais bon, construire. Il faut rappeler quand même que le contexte économique n'est pas non plus hyper favorable du côté du Real Madrid.
Ils sont prêts à mettre 200 millions sur le transfert.
Oui, mais 200 millions, justement. Quand tu mets 200 millions, après derrière, mais il y a pas que lui.
Non, mais l'an prochain, ils l'ont gratos. Donc les 200 millions pour pouvoir mettre sur quelqu'un d'autre.
C'est quand même marrant. C'est quand même marrant parce que tout à l'heure, quand tu me parlais de Cristiano Ronaldo, j'ai quand même, excusez-moi, rarement entendu le mec qui chaque fois disait je veux les meilleurs à côté de moi. Messi non plus. Lui, Mbappé, bon, c'est pas de l'ego, c'est de l'ambition, c'est ça.
Non, c'est de l'ego.
C'est de l'ego. Ah, donc systématiquement, je veux les meilleurs à côté de moi. Je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort. Je vais être Ballon d'Or et tout. Bon, très bien. Moi, je veux bien. Mais à un moment, fais-le quoi. Fais-le, gagne des titres.
Bah, pour l'instant, il est pas mal quand même.
Il a pas été bon.
Il est quand même pas mal. Il a 22 ans, il est champion du monde.
Mais t'as vu les joueurs qui a maintenant à Paris à côté de lui. Donc c'est pas assez encore.
C'est ben pas
encore
assez.
Oui, c'est pas encore assez.
Ça saurait si les Galacticos, s'ils avaient gagné avec le Real la Ligue des Champions, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Donc, mais c'est un garçon. C'est tout. C'est un garçon intelligent. On va pas le lui faire en ayant Neymar, Messi à côté pour gagner la Ligue des Champions. Si avec Paris Saint-Germain, il arrive à gagner ne serait-ce qu'une fois, ce qui serait quand même en 65 ans d'histoire, seulement la deuxième fois qu'un club français gagne la Ligue des Champions. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Il sait très bien qu'en s'inscrivant sur la durée avec un club comme le Real qui en a gagné 13,
il y a plus de chances de l'avoir.
Plus de probabilité de la remporter parce qu'il y a une culture de la victoire que n'a pas encore son club, le Paris Saint-Germain. Ils sont en train de la construire, ça va peut-être payer cette année. Mais si ça paye même cette année, tu crois qu'ils vont la garder 2-3 ans, la Ligue des Champions? Non, parce que c'est une compétition où les plus grands n'ont aucune garantie de la remporter, que le Real les gagnait 3 fois successivement sur les 10 dernières années. Mais c'est, on s'en rend pas compte, mais c'est extraordinaire.
Ouais. Juste au sens propre du terme.
Revenir sur quelque chose quand même. Il nous dit donc Mbappé le mardi dans le football, on sait jamais. Si on m'avait dit que Messi jouerait à Paris, voilà. Le lendemain, la maman, j'ai encore eu Leonardo hier soir au téléphone et j'imagine que c'était pas pour parler du programme télé.
Ça, c'est dur à décrypter. Ça,
c'est quand même pas anodin. Ça veut dire quelque chose.
Florian, c'est difficile de le prendre pour argent comptant, je trouve. C'est difficile de se dire s'il dit ça, ça veut dire que la porte est vraiment ouverte.
Non, je dis pas ça, mais enfin,
ils peuvent aussi ne rien dire. Ils peuvent aussi ne rien dire, mais comme je disais, leur position, elle est compliquée. Aujourd'hui, ne pas dire ça vis-à-vis de la saison qui vient à jouer avec le Paris Saint-Germain, ça aurait été compliqué. Je pense que franchement, j'ai du mal à me dire que sincèrement, il y a cette possibilité. Mais peut-être qu'après tout, je ne comprends pas comment on a pu se dire au mois de juillet, je veux partir, et au mois d'octobre, je suis prêt à discuter. Ouais. J'avoue que là, il y a un truc qui m'échappe.
Bah après,
sauf à se dire, comme je vous le disais, mais j'ai eu du mal à l'expliquer au prof de Stéphane, sauf à se dire que ce qu'on expliquait à l'instant, à savoir que le joueur veut que le club s'y retrouve, sauf à se dire, il prolonge d'une année et que l'été prochain, mais c'est pas
expliqué. Combien il prolongerait? De combien? Il va pas prolonger.
Mais bien sûr, mais
t'as raison.
Non, c'est 2 ans.
Ou 2 ans.
Coupe du monde.
Et on sait tous, parce que c'était sur la place publique, qu'a dit Nasser El Khelaïfi à ce propos. On va pas le laisser partir. Et il l'a dit dans l'interview.
Ouais, ça voulait rien
moi,
dire.
Ça me fait flipper.
Ça veut rien dire.
Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? On laisse pas partir.
Il a pas les cartes en main.
Je me retrouve pieds et poings.
Ouais, mais il a dit qu'il partira pas libre non plus.
Et il a dit après, quand même, Mbappé, qu'il avait pris ça aussi comme une marque d'affection. On voulait pas le laisser partir parce qu'on comptait sur lui.
Pour aller, c'est de la communication.
Soit je suis un doux rêveur. Ouais. Dans un instant, on va revenir. Alors, on va se faire quand même un petit peu de tir au but. Messieurs, vous connaissez le principe. Une question, le premier qui répond, bing, à la parole. À tout de suite.
On refait le match.
Florian Gazan sur RTL.
Allez, jusqu'à 20h, on va faire nos tirs au but quand même. Ça, c'est la spécialité de On refait le match. Vous connaissez le principe. Une question, un seul peut répondre. Au coup de sifflet, le premier qui prend la main peut éventuellement transformer son pénalty comme Kylian Mbappé face à la Belgique. Messieurs, première question. La liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or décerné le 29 novembre prochain est tombée hier. Y a-t-il vraiment un suspense ou c'est Messi qui va remporter son 7e trophée?
C'est Messi qui va...
Alors David a dégainé en premier, je crois. Hein.
Non, c'est Messi parce que... Non, pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense parce que l'aura médiatique, l'aura tout court de Messi prévaut et qu'il se trouve qu'il a remporté la Copa América. Mais peu importe. Enfin, je dis pas, je suis pas en train de te dire est-ce que c'est légitime ou pas. Je te dis juste que on attendait qu'une seule chose et qu'on n'arrêtait pas de dire mais Messi n'a jamais rien gagné avec l'Argentine et que l'impact de cette victoire conjuguée à ce qu'est Messi aujourd'hui font que les votants vont partir sur Messi.
Si c'est Messi, ce sera combien de fois dans l'histoire que le championnat de France a un Ballon d'Or?
Ah, combien de fois qu'il joue en France?
Il y a Jean-Pierre Papin.
Deuxième fois.
Papin. Jean-Pierre Papin.
Ouais. C'est le seul.
C'est vous dire que le championnat de France, il a largué par rapport aux 4
ans. Oui, mais ça, c'est biaisé parce que George Weah, l'année où il est là, il passe la moitié de l'année à Paris.
Ah oui, c'est biaisé en plus de ça parce qu'il a été 6 mois à Barcelone.
Non, voilà, c'est pour ça. Ronaldinho, c'est pas vrai.
On a nos meilleurs joueurs qu'à le palmarès comme Jorginho, ou bien on essaye de faire plaisir à Messi, parce que la Copa América, on peut en reparler, ou bien on a juste les amoureux du ballon, on regarde Lewandowski pour la carrière, il a dépassé Gerd Müller, il a été exceptionnel, ou bien aussi, pourquoi pas, Karim Benzema. Moi, je trouve que le donner à Messi, franchement, c'est tellement facile, quoi. Pourquoi ? Pour ses buts en Espagne et pour la Copa América.
Il faut juste rappeler une chose, c'est que ce n'est pas le France Football qui vote, c'est les jurés de chaque pays dans le monde.
Un journaliste par 200.
Un juré par pays. Or, le juré dans les pays, dans les pays où parfois ils ne voient pas tous les matchs, voire même peu de matchs, eh ben, ils restent, et on le voit bien dans les réactions sur les réseaux sociaux, ils restent encore maintenant sur le match Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Donc je pense qu'effectivement, ça risque de se jouer encore une fois entre ces deux-là, même si, puisqu'il ne l'a pas eu l'an dernier, Lewandowski pourrait faire un beau lauréat aussi.
Ouais,
et même si je pense que Mbappé, cette année, pourrait aussi.
Mais pas Karim Benzema, il marche sur l'eau.
Oui,
et
la mais
quand tu dis entre ces deux-là, vous avez quand même. Dis pas quoi avec tu penses vraiment que CR7 va être dans le.
Mais oui, parce que les.
Non, mais qu'il soit pas long, qu'il soit dans les 5 si tu veux. Mais...
Comment ça se passe le vote avant que ça ait changé? J'ai pas regardé le règlement là, si ça a évolué. Chacun vote pour 5 personnes. Ils font quoi? Systématiquement, ils mettent Messi et Cristiano Ronaldo. Après, ils vont mettre Lewandowski, ils vont mettre Mbappé, ils vont mettre un joueur africain quand ils sont en Afrique, un Sud-Américain, un Asiatique s'il y en a un, s'il y a Son en Asie, etc. Et à l'arrivée, bah, t'additionnes et à chaque fois, t'as Cristiano Ronaldo et Messi.
Et Benzema, donc... ça ferait pas tâche, non?
Bah, attendez,
pourquoi
Stéphane,
pas,
Stéphane.
Ça va se diviser les voix, si tu veux. Il y a 3 Français dans l'eau, il y a Kanté, Benzema. Et Mbappé.
Alors petite pause Xavier, justement, alors ça va être mon deuxième tir au but là, enfin être vif les gars. Donc 3 Français nommés, Mbappé, Benzema, N'Golo Kanté, qui mérite d'être le mieux classé?
Kanté.
Alors François.
Kanté, il est vainqueur de la Ligue des Champions avec une saison extrêmement régulière à partir notamment du mois de janvier et le changement d'entraîneur à Chelsea. Bon, évidemment, l'Euro, il peut en pâtir, mais pour moi, oui, des 3 Français, dans la régularité, même si Benzema le talonne, c'est Kanté qui est dessus. Mais c'est très serré parce que Mbappé est également pleine balle en championnat et en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.
Après, on vote pourquoi la solidité. Je te rejoins avec Kanté qui est là tout le temps, régularité, Champions League. Après, on est un amoureux du ballon et on voit que Benzema, il fait des choses extraordinaires. Alors, c'est pas le même vote.
Mais pas dans le même registre.
Mais pas dans le même registre. Donc, tu vois, c'est compliqué. C'est quand même compliqué.
Non, mais souvent les jurés, eh ben, ils votent sur l'instant. Parce que les votes, c'est maintenant.
Ouais, tu as raison.
Donc,
c'est important
la performance de l'Euro, ils l'ont oublié. Ouais. Donc, Jorginho, il n'aura pas beaucoup de voix.
Jorginho, il a tout gagné.
Oui, mais normalement, ça devrait être Jorginho, effectivement.
C'est lui le meilleur.
Je doute que les jurés se souviennent de Jorginho au moment de voter. Je le souhaite quelque part, parce que ça voudrait dire que le Ballon d'Or ait vraiment retrouvé sa place. Mais
Jorginho, je ne sais même pas s'il va être sur le podium.
Comment ?
Je te le dis, je ne suis même pas sûr qu'il soit sur le podium.
Ah non, il ne sera pas. Non,
je pense que, comme tu l'as décrit, par rapport à la façon dont c'est voté, je pense qu'il ne sera pas sur le podium.
Les gars, ils vont dire ah bah, je vais mettre effectivement Kanté, Cristiano Ronaldo, Messi, ou l'autre, il va dire je vais mettre Cristiano, Benzema, Messi. Et puis voilà, et ça va se jouer comme ça, malheureusement, parce qu'effectivement, je pense qu'un gars comme Jorginho,
c'est lui qui fait une saison extraordinaire.
Bon, est-ce qu'on aura un Français dans le top 3? C'est ce qui compte, c'est ce podium. Est-ce qu'il y aura un des 3 Français, Benzema, Mbappé ou Kanté, sur ce podium du Ballon d'Or?
Oui, je pense que
Benzema. Et lequel donc?
Benzema.
Benzema. Messieurs, vous êtes d'accord avec ça?
Benzema sera pas loin, impact du Real en plus, c'est possible.
Ouais, c'est le Real.
Peut-être, je suis même pas sûr qu'il y ait un Français dans le trio de tête.
Bon, on verra ça, en tout cas, ce sera donc le 29 novembre prochain. Andy Delors, l'attaquant de Nice qui refuse d'aller jouer la CAN avec l'Algérie, pays dont il avait acquis la nationalité en 2019 pour remporter justement la CAN. Motif, se consacrer à son club où il n'est pas titulaire. Delors est-il un ingrat?
Oui, parce que j'ai travaillé en équipe d'Algérie, donc je sais l'importance. Ah bah oui, pendant 3 ans avec la sélection, donc je pense que je peux parler. Quand il choisit
cette équipe. Vous auriez pu parler même sans.
Non, j'ai travaillé en Algérie 3 ans, donc là je peux la ramener avec la sélection.
Et t'en prives pas,
t'as remarqué que tu ne l'as pas ramené.
Et donc, je dis que quand on choisit une équipe nationale, c'est-à-dire à l'époque, il a choisi l'Algérie. Et qu'on lui a bien rendu d'ailleurs, puisqu'il a gagné une Coupe d'Afrique des Nations avec Jamel Belmadi. Il a été remplaçant, il a fait des bons matchs et il a été bien reçu là-bas. Il est remplaçant, il a sur son CV, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Et donc, s'il décide
maintenant de ne pas y aller pour des déplacements compliqués et compagnie, pour qu'on se concentre à son club, je trouve que c'est irrespectueux vis-à-vis de l'Algérie. Voilà, c'est juste mon point de vue. Je pense que si tu t'engages, tu y vas. Tu sais pas à la carte l'équipe nationale, hein. C'est pas comme t'as envie, hein. T'as aussi des mecs qui n'ont pas envie d'aller jouer parfois avec ton pays parce qu'ils sont fatigués. Et ben, tu y vas quand même, quoi. Bon. Même si, voilà.
Ok, dernier tir au but. En Angleterre, Newcastle, racheté par le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite qui pèse 400 milliards d'euros, devient potentiellement le club le plus puissant du monde. Newcastle est-il le futur meilleur club de la planète?
Jamais. Jamais, parce que Newcastle, c'est pas la première fois qu'ils sont blindés, qu'ils ont plein d'argent.
Là, ils sont surblindés, le Qatar, oui, ils sont pauvres à côté. Là.
Ils sont surblindés, mais ils arrivent très tard par rapport à ceux qui sont déjà armés dans ce domaine. Manchester City avec les Émirats. En fait, c'est, l'Arabie Saoudite a un coup de retard par rapport au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Ils essayent de rattraper le coup. Donc, eh ben, ils achètent qui? Ben, ils achètent ce qui reste sur le marché, à savoir Newcastle qui était à vendre parce que Ashley, le président, est fauché depuis des années. Ça fait 3 ans que ça dure cette histoire. Mais arriver à faire de Newcastle le meilleur club d'Angleterre, alors qu'ils ne l'ont pas fait à l'époque où ils avaient des moyens pour concurrencer Manchester United ou Arsenal avec Kevin Keegan comme entraîneur, avec Ginola et Faustino Asprilla et plein de joueurs qu'ils achetaient. Je ne vois pas comment pouvoir le faire aujourd'hui.
Eh ben, écoutez, on verra bien. Ils ont eu tout 20 aussi. On verra. J'ai enregistré tout ça, Xavier. On verra dans 5 ans. On en reparlera car on sera toujours là. On fait le match. En tout cas, on fait le match. Reviendra la semaine prochaine à partir de 18h30 avec le retour de Christian Olivier. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi. Merci de nous avoir suivis pour On fait le match. Dans un instant, RTL Foot avec Giovanni Castaldi et Eric Silvestro. Passez une bonne soirée.
RTL. Bonne soirée.
On refait le match sur RTL.